France Inter.
Et il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Vous vous souvenez, on l'a tous vécu, hein, l'immédiate après-Covid, on était comme des lions en cage qui étaient enfin sortis, nous nous sommes tous rués sur les restos, enfin la terrasse, le plat du jour, ah merci. Et puis patatras, un moment de grâce, effectivement, pour les restaurateurs aussi, tout cela est bien derrière nous, tout a changé. Nos vies au travail, avec le télétravail qui a vidé les petits restos du midi, nos vies dans la restauration aussi, avec les serveurs, les cuisiniers qui ne voulaient plus travailler autant et pour si peu, la profession a dû s'adapter. Et puis le pouvoir d'achat pour tout le monde, les prix de l'énergie en cuisine, les pré-Covid à rembourser, y compris pour les établissements qui étaient déjà ric-rac. Le temps pourri, souvent ça compte, la dissolution plombante. Résultat, le nombre de défaillances en 2024 est le plus haut dans les restaurants depuis 15 ans globalement. Chaque restaurant a perdu entre 1 et 2%. Seuls les lieux très touristiques ou les lieux à tout petit prix tirent réellement leur épingle du jeu. Mais le plus souvent, quitte à manger dehors, vous préférez aller chercher quelque chose de rapide à la boulangerie. Alors, est-ce qu'on peut anticiper cet été sur un effet post-JO différent justement du mois des JO qui n'a pas été très probant. Les étrangers peut-être bluffés par les images ont probablement envie d'aller venir nous voir, on verra bien. Est-ce qu'il faut ajuster les cartes en qualité, en communication? Est-ce que c'est fini au fond le petit resto du coin sur lequel on ne peut pas réserver sur un site et dans lequel on allait surtout à midi? Comment ajuster sa carte et ses charges à des habitudes et des exigences différentes de la part des clients? On vous attend des deux côtés du comptoir ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Olivier, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute.
Et... Allô?
Ouais, on vous entend pas très bien, mais on vous entend quand même. Allez-y.
Attendez, je vais peut-être me rapprocher de la base du téléphone. Excusez-moi. Oui, voilà, bon, merci d'avoir retenu ma question. Ok, pas vraiment une question, plus une remarque, voire un coup de gueule, etc. Et je disais que bon, les sorties au restaurant, c'est pas ce qui me fait vibrer. Enfin, je préfère largement aller voir un spectacle. Maintenant, l'autre chose, c'est que pour moi, sortir au restaurant, c'est à la fois manger un bon repas, boire un bon vin, etc., etc., et aussi avoir un joli cadre. Et enfin, il m'arrive, enfin, quand je me promène à Paris et que je vois les gens manger aux terrasses et que je regarde leur assiette et notamment, par exemple, les frites qu'on leur sert, j'ai envie d'aller voir le cuisinier et de lui dire, écoutez, monsieur, retournez prendre des leçons et apprendre à faire des frites. Et je pourrais leur dire, écoutez, à Saint-Ouen, il y a un restaurant qui s'appelle Chez Huguette où on fait d'excellentes frites, et on pourrait dire à tous les kebabs de France, si vous voulez faire des frites, écoutez, allez faire un tour là-bas et demandez-leur comment ils font.
Bah écoutez, on va embrasser Huguette.
Et dernière chose, c'est à propos donc où je vous disais que le restaurant, c'est à la fois un lieu aussi agréable. Un parallèle, j'étais allé en Italie et j'avais vu une ville, enfin j'ai visité une ville qui s'appelle Castelnuovo di Garfagnana, qui est pas très loin de la à la frontière de l'Émilie-Romagne et de la Toscane, où il y a une salle de cinéma qui s'appelle l'Éden. Et honnêtement, je me dis que ça nous ferait du bien en France d'aller voir cette salle et de s'en inspirer pour peut-être aussi, quand on va au cinéma, aller dans de jolies salles.
Merci beaucoup Olivier, on va pas faire toutes les salles ni de spectacles, de restaurants pour le petit-déj, le matin, le midi, mais on a entendu ce que vous nous disiez sur le repas et aussi le cadre en fait dans le début de votre intervention. Bonsoir Thierry Marx.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous jusqu'à 20h pour cette discussion. Vous êtes chef cuisinier, vous êtes aussi le président de l'Union des métiers et industries hôtelières, l'UMI. Il y a François Blouin qui est avec nous également. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes président bonsoir. Fondateur de Food Service Vision, cabinet d'intelligence économique de la filière restauration. C'est chez vous notamment qu'on a été chercher les chiffres que je citais tout à l'heure. Je vais vous poser la question à tous les deux, Thierry Marx. Aujourd'hui, est-ce qu'on se trompe? Le sentiment qu'on a, c'est que c'est un peu ce que dit notre auditeur. Au fond, il faut que ce soit bon, mais il faut que le cadre aille avec. Est-ce que ça veut dire que le petit resto d'antan, en fait, désormais, n'existe quasiment plus ou est voué à disparaître?
Bah surtout, c'est qu'on n'a pas su le protéger. Aujourd'hui, le coût des matières premières, le coût du personnel, le coût de l'énergie, tout ça a durci un petit peu les marges d'un restaurant. Un petit restaurant, c'est quoi? Je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde. 100 000 euros de chiffre d'affaires, en gros, net, il vous reste 2 000 euros. Donc vous avez très peu de marge de manœuvre. Et aujourd'hui, effectivement, ça devient très difficile, où le bistrot d'antan, celui que vous évoquez, notamment entre les années 70-80, en gros, il y avait un premier menu avec une heure du SMIC, en gros. Aujourd'hui, l'heure du SMIC, elle est chez le boulanger. Donc on a une société qui est télescopée par énormément de choses, la livraison à domicile, l'ubérisation, les plateformes de réservation, tout ça, ça a un coût. Et puis l'augmentation lourde du coût des matières premières qui est là, mais surtout du coût de l'énergie et du coût salaire de nos collaborateurs, et c'est normal. Donc tout ça se télescope, et aujourd'hui on n'a pas su protéger ça. Pour ça que nous avons défendu, nous à Lumi, une loi sur le fait maison, pour se dire, eh bien, on va protéger le mot restaurant déjà, et l'artisanat des métiers de bouche, pour que le client, quand il va dans un établissement, se rende compte si c'est du fait maison ou si c'est un produit industriel très transformé.
On va y revenir au fait maison, parce qu'il y a des questions effectivement là-dessus, sur ce que ça veut réellement dire, et puis surtout dans une carte qui parfois est pléthorique, s'il y a deux plats qui sont faits maison, si derrière il n'y a pas marqué fait maison, ça veut dire que la moitié de la carte...
Mais il doit y avoir une indication en face, voilà, c'est ce que nous proposions.
Exactement. François Blouin, pour compléter ce que dit Thierry Marx, est-ce que aujourd'hui, au fond, c'est nous, en fait, les consommateurs, qui sommes devenus des consommateurs aussi nettement plus exigeants, donc on veut de l'assiette, on veut du cadre, on veut pouvoir commander notre table sur Internet, on veut pouvoir aussi faire de la livraison si on veut. Est-ce qu'on a cette part de responsabilité?
Alors, on veut tout ça, effectivement, en tant que consommateur. Dans nos études, on mesure que 77% des consommateurs nous disent « Je veux vivre une expérience waouh ». Mmh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, waouh? Ça veut dire une expérience qui marque, ça veut dire que le fait de passer un moment qui soit vraiment différent au restaurant du moment qu'on passe chez soi. C'est d'autant plus nécessaire que 48% des consommateurs utilisent la livraison au moins une fois par semestre. Donc ça veut dire que quand ils ont l'habitude de se faire livrer, quand ils vont au restaurant, ils veulent vivre un vrai moment de restauration.
Mais est-ce que ça veut dire, François Blouin, que Thierry Marx disait qu'on n'avait pas su protéger le petit resto, celui du midi? Est-ce que, et sans vouloir être un peu trop raide pour les gens qui nous écoutent, notamment les restaurateurs, ça veut dire que ce petit resto du midi, aujourd'hui, n'est plus pertinent, voire n'existe plus, en fait, ou a très peu de chances de survivre? Parce qu'il n'y a pas de waouh dans le petit resto du midi où on descend manger...
Le restaurant du midi, son premier problème, c'est qu'en fait, le télétravail est arrivé. Et aujourd'hui, le lundi ou le vendredi, on a à moitié moins de clients présents. Donc en fait, la première chose, c'est un problème de flux. Et deuxièmement, le restaurant du midi, quand il propose un service rapide, de qualité et un prix accessible, il fonctionne tout à fait bien.
Il y a quelque chose, Thierry Marx, de pause déjeuner à la française dans le petit restaurant du midi, mais ce qui change aussi, on a parlé du télétravail tout à l'heure, c'est que, de toute façon, télétravail ou pas, on travaille plus de la même manière, les pauses de midi sont évidemment beaucoup moins longues qu'elles ont pu l'être à une époque, c'est aussi une autre époque qui fait que ce qui allait avec a du mal à survivre aujourd'hui, non?
Alors, oui et non, mais on revient de ça, c'est-à-dire que si vous avez, et ce qui vient d'être dit est très juste, si vous avez un ticket d'entrée qui est acceptable. Moi, par exemple, j'ai un restaurant à 25 euros à la porte, à la mairie de Saint-Ouen. Eh bien, on remplit. Et toutes catégories confondues, que ce soit de l'ouvrier qualifié, de l'étudiant, ou...
Mais 25 euros tous les jours, c'est difficile.
Ah, mais c'est très difficile. Si vous ne faites pas 500 couverts...
C'est ça.
Si vous ne faites pas... Je dis bien, si vous ne faites pas 500 couverts, vous ne dégagez aucune petite marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et il faut énormément de mettre de process pour tenir ça. Or que nos établissements, si je prends 30 ou 40 ans en arrière, il n'y avait pas toute cette digitalisation de l'argent, il n'y avait pas tout ça. Donc à un moment donné, on se débrouillait un petit peu avec la caisse pour aller acheter à droite à gauche au meilleur prix le plat du jour. Aujourd'hui, c'est plus ça. Et effectivement, il y a un modèle économique qui est en train de disparaître parce que, un, l'argent est digitalisé, il y a cette plateforme qui vous créer du flux et une concurrence aussi pour vos établissements. Et rien que le coût de l'énergie en 2023, ça a été la fermeture de 8000 établissements en France. Aujourd'hui, on ferme 20 restaurants par jour.
Est-ce que vous diriez qu'il y a eu des mises sous perfusion aussi pendant le Covid et au fond des restaurants qui, je disais en introduction, qui étaient déjà ric-rac et qui de toute façon donc n'ont jamais pu ou avec beaucoup de difficultés rembourser les pré-Covid?
C'est complètement vrai. Et en même temps, ces restaurants qui étaient sous perfusion, oui, certes, allaient mourir, mais c'est un peu le renouvellement normal. Aujourd'hui, ce renouvellement, il ne se refait pas par un restaurant où on va faire du fait maison. Il va être remplacé par un restaurant qui sera plutôt de la cuisine, voire même pas de la cuisine, de juste à emporter ou
de l'encart rapide.
C'est de l'encart rapide. Ouais.
Vincent est avec nous. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Vous êtes le bienvenu.
Merci.
On vous écoute.
Oui, enfin moi, mon témoignage, je rejoins totalement ce que vient d'être dit sur le plateau. Et en effet, oui, il faut maintenant faire face à une nouvelle propension au plaisir de la restauration. Mmh. Alors, donc, il faut créer un climat, un vrai climat dans les salles de restaurant. Sinon, ça ne marche plus. Alors, sans parler de grande ou de petite cuisine, parce que j'ai toujours préconisé que il n'y a que de la bonne cuisine, ou de la moins bonne. Je suis cuisinier aussi, depuis 1981.
Vous êtes cuisinier, vous êtes restaurateur.
Ouais. Oui, restaurateur jusqu'alors à Toulouse. Et quand même, il a fallu que je m'adapte aussi, parce que, en effet, tous les coûts ont augmenté, etc. Et désormais, je me suis installé dans les Pyrénées, à Luchon, pour être très précis, et donc sous les halles gourmandes, en travaillant le traiteur. Et là, c'est un petit peu comme les vieilles voitures, comme les vieilles fringues, etc. C'est la cuisine d'antan, la Madeleine de Proust, qui marche aujourd'hui. Mmh. Parce que ça ramène encore à nous...
Mais c'est intéressant, vous ne le faisiez pas avant, Vincent. C'est en voyant l'évolution des gens que vous vous êtes dit, il faut que j'aille plus vers la Madeleine de Proust, vers la cuisine beaucoup plus tradie finalement.
Absolument. Mmh. Après avoir vécu fort heureusement une belle formation dans mes années de jeunesse, je précise que je suis à 2-3 ans de la retraite, mmh. et pour finir en pente douce, je n'ai trouvé que cette solution, c'est-à-dire me rapprocher de la cuisine d'antan. Je voudrais juste rajouter, si j'ai une petite seconde...
Rapidement, allez-y, ouais.
Très rapidement. Donc, pendant le Covid, nous avons tous pratiquer presque une angoisse de faillite, alors que nous n'avions pas failli. Ça a été très très dur. Très très dur. Et les aides de l'État, elles ont été ici présentes d'une façon ou d'une autre, mais heureusement, parce que sinon il y aurait eu une casse beaucoup plus monumentale.
Évidemment, merci beaucoup Vincent pour votre intervention. François Blouin, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui, en 2024, avec les chiffres que l'on connaît, 4 ans, 5 ans après le Covid, le portrait robot au fond du restaurant qui aujourd'hui survit et permet aux gens à la fois qu'ils le possèdent et qui y travaillent de vivre bien, c'est quoi? Est-ce que ça ressemble à celui de Vincent? À quoi ça ressemble?
Alors, le premier point, c'est que quand j'entends Vincent 5 ans après la séquence Covid, j'ai envie de rendre hommage à Vincent et à tous les restaurateurs qui ont su se réinventer, qui ont su finalement surmonter les différents obstacles de ces dernières années, l'inflation, le Covid, les changements de flux, les JO, ça fait beaucoup de choses quand même à intégrer. Et ceux qui s'en sortent le mieux dans nos études, ce qu'on observe, c'est ceux qui arrivent à tenir ce qu'on appelle le rapport satiété-expérience-prix. C'est-à-dire dans le segment dans lequel je suis, que je sois moyenne gamme, haut de gamme ou bas de gamme, est-ce que le consommateur est satisfait? Est-ce qu'il en a vraiment pour son argent? Et est-ce qu'il, du coup, trouve dans cette situation le fait de dire « je suis venu là et j'en ai eu vraiment pour mon prix ». Quand on prend l'exemple des bouillons, par exemple, qui jouent sur cette cuisine authentique, cette cuisine, non pas de terroir, mais traditionnelle, les bouillons, aujourd'hui, ça ne désemplit pas. Quand vous prenez à l'autre extrême des acteurs comme Ephemera, qui sont vraiment des restaurants très immersifs, là aussi, ça ne désemplit pas. Donc, il y a plusieurs solutions, finalement, pour s'en sortir.
Je vous ai vu tiquer un peu Thierry Marx sur les bouillons, c'est très très à la mode en ce moment.
Alors le bouillon c'est très à la mode, ça revient, c'est vraiment quelque chose de très connu entre le bouillon Chartier et le bouillon Duval. On peut raconter l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que c'était une très bonne idée de ramener ce côté très populaire. Après, il ne faut pas oublier que ces bouillons étaient repris pas par des cuisiniers, mais par des gens qui étaient plutôt issus d'écoles de commerce, qui avaient l'habitude de marketer et de processer les choses, ce qui n'est pas le cas sur les 175 000 restaurants qui existent en France. Mais bravo, ça marche et ça fonctionne et ça donne une accessibilité à beaucoup de gens de retourner au restaurant et ne pas sacrifier la période restaurant. Deuxième chose, si on veut sauver des restaurants et notamment en milieu rural et certains petits restaurants qu'on aimait bien et qui faisaient l'attractivité française, il faut regarder du côté des taxes. Et c'est vrai, si vous mettiez, par exemple, ce que j'avais proposé à l'époque, un, de faire une loi sur le fait maison et deux, une TVA à 5,5 sur le plat du jour, en exigeant qu'on travaille avec du produit agricole français, eh bien, je pense que la marge serait meilleure pour les restaurateurs, et s'il y a marge meilleure, eh bien l'entreprise retrouve de l'oxygène. Aujourd'hui, il n'y a plus d'oxygène dans beaucoup d'entreprises.
Deux choses avant de retourner au standard où Valentin nous attend. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le fait maison, en fait ? Pourquoi ça ne prend pas,
Ce qui n'a pas marché, c'est d'abord, nous on attendait une loi cadre sur le fait maison, donc ça c'était plutôt bien avancé, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de travaux de fait par mes prédécesseurs, et puis tout d'un coup a déclenché l'envie du non-fait maison, d'indiquer ce qui n'était pas fait maison. Je crois que ça, c'était un effet de blocage, et de se dire, il vaut mieux promouvoir le fait maison dans une loi cadre, et ça a bloqué, et puis la dissolution est arrivée, et on n'a pas pu...
Après, j'imagine la carte. Si je suis dans un restaurant, j'ouvre la carte, et je vois qu'il y a, par exemple, j'en sais rien, moi, 6 plats, puis j'en vois 2 qui sont faits maison, et sur les 4 autres, il n'y a pas le petit sigle, donc je sens bien qu'ils
ne
sont
pas. Mais non, mais la loi devrait vous imposer d'avoir le petit sigle.
Voilà. Mais du coup, non, ça veut dire que, en fait, il n'y a que 2 plats qui risquent de marcher, les autres on sait que c'est industriel, donc l'idée ce serait de tirer une balle dans le pied des restaurateurs en fait.
Non, après c'est à l'artisan de se réinventer. Moi par exemple, dans certains de mes restaurants, dans une de mes brasseries, je fais des pâtés en croûte Gilles Véraud. J'annonce pâté en croûte Gilles Véraud, je n'ai pas la compétence pour les faire, donc je le déclare, il n'y a aucun souci avec ça. La loi cadre sur le fait maison protégerait la gastronomie française dans sa durabilité.
J'ai aussi une question sur les entrepreneurs dont vous parliez, mais je voudrais d'abord qu'on écoute Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
On vous écoute.
C'était plus un témoignage.
Allez-y.
Moi, je suis ouvrier dans le bâtiment, et donc le midi, on a l'habitude avec les collègues d'aller manger dans le resto le plus proche du chantier où on est au moment où on y est. Et on remarque depuis quelques années que le plat du jour à 10,50€ se fait de plus en plus rare, et que quand on mange, on s'en sort plutôt pour une 20aine d'euros, quoi. Mmh. Et nos primes de panier, elles sont limitées à 9,50€, et je me demandais si en augmentant les primes de panier, on pourrait pas permettre aux travailleurs de permettre aux
à d'autres de travailler.
De travailler.
Et vous allez dans le sens, merci beaucoup Valentin Debrault, qui nous dit, moi dans ma province rurale, il y a encore 4 ans, on trouvait des menus à 12 ou 14€, aujourd'hui rien n'est en dessous de 18 ou 22€, et dans le même temps, il y a effectivement les petits menus chez les fast-food à 4 ou 5€. J'imagine que même chez vous, à 25€, ça doit être très très bon, mais tous les jours, pour les gens, c'est juste
bien
impossible.
Bien sûr, mais je reviens sur le menu à 10 ou 12 euros, quand vous avez payé votre TVA là-dessus, il reste pas grand-chose, pour peu que vous fassiez du fait maison et que vous achetiez des produits frais, eh bien vous voyez bien que si vous ne faites pas 300 menus à 10 euros, vous ne vous en sortez pas. Et puis, regardez, on n'a pas hésité à retirer le titre restaurant aux restaurateurs. Donc on leur a dit, vous allez le partager avec la grande distribution. Donc aujourd'hui, vous allez acheter une mauvaise carotte râpée avec une TVA 5,5, donc vous vous privez déjà d'une TVA. C'est une mauvaise carotte râpée, et vous pouvez l'acheter avec un titre restaurant.
Exactement,
qui s'appelle titre restaurant.
J'allais y venir au titre restaurant. Voilà, j'allais y venir au titre restaurant, jusqu'à quel point le fait qu'on puisse effectivement aller dans les supermarchés désormais avec un ticket resto, jusqu'à quel point ça vous a porté préjudice à vous, les restaurateurs.
C'est 5 milliards d'euros qui ont été perdus pour la restauration. Je dis pas qu'il faut pas créer un titre alimentation pour aider les personnes qui ont un problème de pouvoir d'achat, et ça je l'entends très bien, nous avons proposé un titre alimentation, mais le titre restaurant devrait retourner, et notamment à ces restaurants du Midi qui vivaient de ces titres restaurants.
On a Xavier, François Albouin, sur l'appli France Inter, qui dit « Mais pourquoi est-ce que le vin est aussi cher dans les restaurants ?» nous demande-t-il. Est-ce que c'est là que joue la marge, en fait, le vin, y compris le café ou le pousse-café après ? Est-ce que c'est là que ça se joue, François Albouin ? Et c'est là peut-être que ça devient plus compliqué, d'ailleurs, parce que des repas sans vin, on en fait plein désormais aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est dans le modèle économique, et Thierry Marx pourra compléter avec probablement plus de précision que moi encore, dans le modèle économique de la restauration, la boisson, que ce soit le vin ou le café, sont des éléments extrêmement importants. Donc chaque fois qu'on enlève la prise d'un café ou la prise d'un verre de vin ou d'une bouteille de vin, si on est à plusieurs, ça va bien sûr jouer à la baisse sur la marge du restaurateur. Et pour l'inflation, pour revenir sur la question de l'auditeur précédente, pour se remettre les chiffres, en 4 ans, l'inflation subie en moyenne par les restaurants, elle était de 30%, leurs achats. L'inflation qu'ils ont répercutée sur leurs cartes, mesurée par nous sur les indépendants, c'est 23%. Donc ça rejoint bien ce que disait tout à l'heure Thierry Marx sur la difficulté du modèle économique aujourd'hui. Les prix ont monté, les charges ont monté, et les restaurateurs n'arrivent pas à répercuter ces prix aux consommateurs, parce qu'effectivement, pour une partie d'entre eux, ces prix sont trop élevés.
On parlait tout à l'heure de ce que les restaurants proposent aujourd'hui, de ce qui a pu changer chez effectivement certains consommateurs. On a Marine qui nous dit on aimerait voir plus de sans gluten, sans lactose, etc. Les voisins européens s'y sont mis et nous beaucoup moins. On a Béatrice qui dit je ne fréquente qu'un seul restaurant, elle est à Annecy, le seul qui est 100% vegan, et si davantage de restaurateurs faisaient plus preuve d'ouverture d'esprit, j'en fréquenterais davantage. Thierry Marc sur l'adaptation, et je sais qu'il y a certains restaurateurs qui tiquent là-dessus parce que ça devient compliqué de faire tout ça à la carte et pour chacun, mais néanmoins.
Bien sûr, après on arrive quasiment dans le sur-mesure. On voit bien aujourd'hui des restaurateurs qui ont pris en compte cela, qui font une carte qui est assez 80-20, 80% végétal.
À la carte du à la carte.
Voilà, 20% protéines animales. Il y a des gens qui vont aller se spécialiser dans le vegan, mais tout ça, c'est pas non plus une obligation du restaurateur de s'imposer cela pour une petite niche de clients aujourd'hui. Deuxième chose, je reviens sur ce qui est dit, par exemple sur le vin et sur le café. Eh bien évidemment, la marge qu'on pouvait se faire, elle se faisait effectivement sur les cafés, sur les boissons, et là il y avait une petite marge. Mais aujourd'hui, le client souvent fait un arbitrage, notamment quand il va tous les jours au restaurant.
Exactement.
Il n'y aura pas deux cafés, il y aura un café, il y aura un œuf mayonnaise, une carafe d'eau et un peu de pain, et je boucle là. Donc ça veut dire, tous ces, comme on dit en anglais, tous ces upsells, toute cette valeur ajoutée qu'on pouvait prendre sur des ventes additionnelles, voilà, je cherchais le mot, pardon, ces ventes additionnelles, eh bien on les fait plus vraiment. Ouais. Et ce qui a été évoqué est très juste, le modèle économique, beaucoup de modèles économiques, comme nous ne pouvons pas répercuter cette inflation, ne tiennent plus. Donc il y a, encore une fois, et je ne veux pas revenir sur les grands principes d'André Daguin, mais André Daguin disait qu'il y avait un sujet sur la TVA, au moins sur le plat du jour.
On est en train de parler de restauration ce soir et notamment de la difficulté des restaurants dans cette année 2024 avec Thierry Marx qui est le président de l'UMI, avec François Bloin qui est président fondateur de Food Service Vision et avec vous Florence, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la bienvenue Florence, on vous écoute.
Alors moi j'avais une remarque, on est loin des préoccupations des déjeuners des travailleurs dans ma remarque, mais moi je constate, j'habite dans une grande ville, maintenant pour sortir au restaurant le soir c'est impossible si on n'a pas réservé 8 jours avant, qu'on soit 2, qu'on soit 4 ou qu'on soit 8. Du coup je trouve que ça perd complètement en spontanéité. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut se présenter en se disant bah tiens on se fait un resto et puis on arrive et voilà. Il faut avoir réservé. Je trouve que ça perd beaucoup en termes de spontanéité, même si je comprends aussi les contraintes pour les restaurateurs en termes de salariés et en termes de prévision.
Et oui, merci beaucoup Florence pour votre remarque. Thierry Marx, on en parlait tout à l'heure, nous, dans le bureau, il se trouve que moi je vais au resto ce soir, on m'a demandé deux fois si je confirmais en fait. Bien et sûr. J'entends bien, et ça aussi, ça fait partie des choses effectivement qui sont nouvelles. Est-ce que ça veut dire qu'on est, dans les restaurateurs, au cordeau? C'est-à-dire, si je sais que j'ai 16 tables, je vais préparer pour 16, je vais même embaucher pour 16 si j'ai des serveurs, et je fais ça au jugé à chaque fois en fonction des
choses. Vous avez complètement raison, c'est-à-dire que, on a quand même 200 000 postes qui nous manquent dans nos métiers de l'hôtellerie-restauration, donc on est assez au cordeau effectivement sur nos équipes. Ensuite, on est au cordeau sur les coûts matières premières qui ont quand même beaucoup augmenté. Donc effectivement, les no-shows, comme on dit dans nos métiers, étaient de plus en plus fréquents.
Il y a donc ce qu'on appelle des taxes lapins aujourd'hui, certains restaurants qui font payer une partie de ce que vous auriez consommé.
Exactement, alors moi pour certains d'entre nous, nous en sommes en port cas là. Quand vous avez un peu de notoriété, ben vous pouvez exiger même pas un prépaiement, mais au moins de vous engager à venir en ayant payé un petit reliquat sur la prévision. Mais en tout cas, c'est effectivement, les établissements sont au cordeau et ne peuvent pas se permettre le moindre dérapage. Quand vous faites à peine 2% de marge, le moindre dérapage est catastrophique.
On a Le Moine, c'est comme ça qu'il s'appelle sur WhatsApp, François Bloin, qui nous envoie ce message et qui dit « Mais en fait, il y a beaucoup trop de restaurants et nouvelles tendances et décors. » Ou d'ailleurs, dit-il, nous sommes mal assis avec des fauteuils qui sont trop loin de la table. Alors ça, c'est aussi autre chose. Mais quand il dit « Il y a trop de restaurants, François Bloin », est-ce qu'aujourd'hui encore, ouvrir un restaurant, c'est quelque chose que certains pensent facile? Et du coup, il y en a beaucoup et c'est aussi ce qui fait qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de pertes, malheureusement.
Effectivement. C'est les tribunaux de commerce nous interrogent là là-dessus, justement, à quel niveau de formation il faut avoir pour ouvrir un restaurant. On voit beaucoup de gens qui ouvrent des restaurants parce qu'ils ont une image fantasmée de ce que peut être un restaurant. Et puis, une année ou deux années après, ils ont perdu beaucoup d'argent et ils ferment. Et c'est vrai que le mot restaurant est tellement galvaudé que finalement, cet auditeur a raison, il y a peut-être beaucoup trop de restaurants qui s'appellent restaurants et qui ne sont pas des restaurants. Donc là, on voit un écrémage qui est en train de se faire, qui est peut-être pas aussi toxique que ça. Mais hélas, quand vous êtes un vrai professionnel et que autour de vous vient s'installer 2-3 corners, et bien finalement ça prend sur vos clients, et puis finalement, ces clients-là, vous ne les retrouvez jamais, et ces établissements vont fermer très très vite, mais en tout cas, le mal est fait, ils ont oxydé une partie de votre clientèle.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs, François Bloin, ce qui ouvre aujourd'hui, c'est-à-dire si la tendance est d'ouvrir quelque chose de très concept, de très différent, ou au contraire, ce qui ouvre, ce sont des choses qui sont finalement beaucoup plus classiques, et qui ont peut-être plus de mal ou pas de s'insérer dans le paysage. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus, on sait le dire ou pas?
Alors, je vais parler ici de la restauration indépendante.
Ouais.
Ce qu'on sait déjà, c'est que au global, l'ensemble du parc de restaurants indépendants plus chaînés, il a augmenté de 4% en 2023 et nous on estime, c'est des premières estimations, qu'il a augmenté de 3% encore en 2024. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en fait, il y a plus de restaurants qui ouvrent, il y en a beaucoup qui ferment, mais il y en a plus qui ouvrent que de restaurants qui ferment. Et au sein de ces dynamiques, sur 2023, ces derniers chiffres précis qu'on avait, la restauration traditionnelle, on avait 2% de points de vente en moins. Donc effectivement, la restauration classique. Et pour prendre d'autres exemples, la restauration asiatique, on était à 12% de points de vente en plus. Mmh. La restauration brasserie était à plus 6%. Donc finalement, on voit bien qu'il y a une redistribution des cartes entre une restauration historique classique qui est renouvelée par de nouvelles tendances culinaires notamment. Mmh. Thierry Marx s'est bien parlé parler de la tendance asiatique, qui aujourd'hui est extrêmement populaire. Et on voit de plus en plus de restaurants qui s'inspirent de cette tendance-là, par exemple, qui ouvrent notamment dans les grandes villes.
Alors, redistribution des cartes, mais aussi pour les salariés, pour les serveurs, pour les cuisiniers. Voici Léa qui est avec nous, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, en fait, je voulais intervenir parce que, donc effectivement, on entend beaucoup parler du côté restaurateur, mais c'est vrai que moi, enfin, j'ai toujours adoré travailler dans des restaurants, dans des hôtels, etc. Et c'est vrai que j'ai arrêté, en fait, parce que j'ai trouvé que les conditions étaient bien moins bonnes que dans plein d'autres secteurs d'activité, tant sur le salaire que sur les horaires, que sur les choses, sur les services en coupure, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué et puis fatigant et on s'y retrouve plus, quoi.
Et vous faites quoi, Léa, maintenant, par curiosité?
Alors moi, maintenant, je me suis reconvertie, j'ai créé ma petite entreprise en tant que couturière.
Okay.
Et là, je suis en train de préparer le concours de professeur des écoles.
Ah bah voyez, comme quoi, il y a plusieurs vies dans une vie, et c'est bien. Un mot là-dessus, Thierry Marx.
Oui, non,
bien sûr que tout a changé depuis le Covid.
On s'assure que tout change. Il est vrai qu'on travaillera toujours quand les gens se reposent. Donc les horaires sont toujours compliqués. La coupure tend à disparaître. On replanifie un petit peu pour qu'il n'y ait pas de coupure. Et après, sur le salaire, quand je regarde les autres industries, eh bien, c'est quand même le SMIC le plus haut. Il est dans l'hôtellerie-restauration. Donc effectivement, il y a encore des efforts à faire d'accueil dans les entreprises et de planification. Je l'entends et nous y travaillons.
Vous été poussé à le faire, en fait.
Bien sûr,
parce qu'il n'y avait plus personne pour travailler dans vos établissements.
On a perdu 150 000 postes à la sortie du Covid. Et il manque toujours 200 000 postes dans la restauration. Donc, y a un vrai sujet là-dessus. Avec, en plus, des gens qui, il y a environ 80 000 personnes par an qui partent à la retraite de nos métiers. Mmh. Donc, y a un vrai sujet là-dessus. Mais il est vrai, tant sur la rémunération, bien évidemment, mais pour augmenter la rémunération de nos collaborateurs, il faut aussi pouvoir faire des marges. Et quand une entreprise va bien et qu'elle a de l'oxygène, elle peut évidemment contribuer à donner de la valeur à ses salariés en augmentant leur salaire. Mais on y travaille, mais aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est de parler de l'oxygène et de l'oxygène que doivent reprendre ces entreprises pour qu'elles vivent mieux.
Bonsoir Julien Leclerc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et justement, là-dessus, vous aviez un restaurant, vous, dans une petite ville du Gers. Vous l'avez vendu, mais pour d'autres raisons, il allait bien quand vous vous en êtes séparés. Mais on a eu envie de vous parler parce que je me souviens que la dernière fois que vous avez participé au téléphone, vous aviez expliqué, on parlait de serveurs, que vous aviez passé tout le monde à la semaine de 4 jours, par exemple. Est-ce que ça marchait chez vous ?
Oui, en fait, on s'est interrogé. Moi, j'entends Léa, on entend même la passion dans ce qu'elle racontait. On sent qu'elle était passionnée de ce métier-là. Et qu'elle en est partie. Donc, on a été confrontés à ça. Moi, j'ai eu un peu de nez. J'ai racheté un resto en 2020. Des fois, on a le sens du timing dans la vie. Et donc, on a été confrontés à ce que Thierry Marx raconte. C'est, il y avait personne, en fait. Mmh. Et la difficulté quand vous avez personne, c'est que vous avez pas assez de monde. Donc, vous fermez à des moments où vous voudriez ouvrir et où il y a de la demande, ou alors vous dites que vous êtes complet quand vous l'êtes pas. On revient un peu sur ce que disait votre auditrice précédente, Florence, où on va refuser notamment les non-résas, etc. Et en fait, nous, on a passé 3 ans comme ça, très compliqué. Et la 4e année, on s'est dit, mais en fait, comment on peut faire ? On a réuni l'équipe fixe et on leur a demandé, d'après vous, pourquoi la restauration est un secteur très en tension dans le monde entier. Et on s'est posé toutes les questions, celles du salaire, celles du rythme, celles des coupures, celles des week-ends. Et on a essayé tout un tas de choses, et notamment la semaine de 4 jours. Et en fait, en quelques mois, on s'est retrouvé d'une situation en grande tension à des listes d'attente.
Mmh. Mais qu'est-ce qui fait que c'est reparti chez vous, par exemple ? Parce que comment vous avez trouvé la bonne équation, finalement ? Parce qu'il y a vous, votre organisation, les questions que vous êtes posées sur la manière de vous organiser, puis il faut quand même que les gens viennent, et donc qu'ils y trouvent aussi leur compte. Donc comment elle se mesure, cette équation-là, finalement, entre ce que les gens veulent et ce que vous êtes capable de leur offrir avec les moyens qui sont les vôtres ?
Franchement, on est sorti, on a juste tout posé sur la table et on s'est dit on va tenter des choses. Le premier sujet qui est venu, c'était celui de l'argent, du salaire, où nous, on pouvait pas, à Lectour, dans le Gers, s'aligner sur des salaires, notamment en saison, payer 4000 euros pour un chef, comme le font certaines brasseries sur la Côte Basque ou sur la Côte d'Azur. Donc nous, on s'est dit, puisqu'on peut pas aller rivaliser sur le sujet de l'argent, même si on a essayé de faire pas mal de choses, on va essayer de rivaliser sur l'inverse, sur le rythme, sur l'expérience, en fait. Quelle expérience tu vas venir, tu vas traverser, tu vas vivre si tu viens chez moi? Et donc, on a mis plein de choses en place sur des logements, sur de la mobilité, parce qu'on avait 90% des saisonniers qui n'avaient pas de permis ou pas de voiture. Donc, on a pris des logements à 100 mètres du bar. Et puis, on a tenté la semaine de 4 jours parce que ça commençait à circuler, qu'on voyait que les premiers retours dans quelques branches métiers fonctionnaient bien, étaient bons. Et on a proposé à 18 salariés de passer la semaine de 4 jours. Et on a testé ça pendant un mois et les retours ont été super positifs. Ce qui fait qu'en fait, sur nos annonces, on a garanti 3 jours de repos consécutifs par semaine.
Après, Julien Leclerc, et je reviens sur ce que disait Thierry Marx tout à l'heure, et vous pourrez répondre, Thierry Marx, on parlait des bouillons, il disait, mais aujourd'hui, en fait, ce ne sont plus des restaurateurs, ce sont des entrepreneurs. Il faut le plan derrière, y compris le plan com d'ailleurs, et savoir même en termes de com ce qu'on met sur la carte, mais aussi comment vont se passer comment va s'organiser en fait les serveurs, les cuisiniers, etc. à l'intérieur du restaurant. Et vous, Julien Leclerc, je vous entends. Effectivement, c'est l'œil d'entrepreneur que vous avez, où la question que vous vous posez, le questionnement que vous avez, c'est un questionnement d'entrepreneur plus qu'un questionnement de restaurateur. Et au fond, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'avenir du restaurant, c'est vous, Julien Leclerc, ou est-ce que c'est un gars qui sort de ses études de restauration et qui a très envie d'ouvrir son propre établissement ?
Les deux, mon capitaine.
Bah, faut vous... ouais.
Heureusement, les deux, parce que c'est un métier exceptionnel. C'est un métier de passion, c'est un métier d'accueil. Vous vous levez le matin en vous demandant ce qui va faire plaisir aux gens. Et ça, c'est formidable. Et c'est ça qui rend encore plus malade de se dire « mais je vais être obligé de fermer parce que j'ai personne pour servir ». On se lève le matin en réfléchissant à comment on attire. Et en fait, là, il y a de la clientèle, parce que quand vous avez un emplacement qui est bien et que vous bossez bien, en principe, au bout d'un moment, il y a du monde qui arrive. Vous avez de la clientèle, vous êtes obligé de refuser. Et ça rend malade. Et donc ça, c'est la vision chef, on en a besoin. La vision des passionnés de restauration, ça peut être un serveur. Donc des gens dont c'est le métier, mais oui, il faut des compétences entrepreneuriales. C'est évident et je pense que c'est de plus en plus vrai.
Thierry Marx, ça veut dire réinventer aussi, au fond, pas seulement le secteur, mais aussi la manière dont on travaille, dont on se lance.
Je vais dans votre sens, il faut réinventer le secteur. Alors évidemment, en sachant qu'on va travailler quand les autres se reposent, c'est bien évident. Et après, de savoir que, bien sûr, on peut faire du 4-3, dire 4 jours, jours ouverts, 3 jours fermés. Mais à un moment donné, votre besoin en chiffre d'affaires, il est là, vos charges, elles sont là tous les jours. Donc, alors après, si on a vraiment un petit package d'argent qui nous permette de faire ça, je l'entends, mais c'est pas ma vision des choses. Ensuite, il y a aussi de présenter ces métiers. On a l'impression que les métiers de l'hôtellerie-restauration seraient des métiers très durs, horribles. Mais vous prenez les métiers de la santé ou les métiers de la logistique, c'est les mêmes contraintes horaires, et avec des salaires des fois qui sont un peu en deçà de ce que nous proposons. Alors, j'entends qu'on doit retravailler sur le... Mais quand je regarde aujourd'hui les gens qui rachètent dans l'univers de la restauration et qui prennent un autre regard que simplement celui qui a fait comme moi l'école hôtelière, qui regardent d'un œil managérial et de chef d'entreprise, plutôt des gens qui ont fait des écoles de commerce d'ailleurs, je vois qu'ils n'ont pas du tout les mêmes applications, voire pas les mêmes passions, mais ils se disent, c'est quoi le modèle marketing, quels sont les process, comment je planifie, et tous ces outils du digital aujourd'hui et de l'intelligence augmentée, aide aussi. Alors après, est-ce que ça fait des maisons qui sont émotionnellement intéressantes? J'ai une question là-dessus. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des modèles à réinventer et que de toute façon, on sera obligé de les réinventer parce que les anciens modèles économiques sont en train de disparaître. Si vous ne mesurez pas aujourd'hui l'impact social, l'impact environnemental, bien vous avez peu de chances de tenir pour les 10 années qui viennent.
Vous savez le regarder, le calculer, ça, François Blouin, est-ce qu'on sait dire oui, aujourd'hui, les ouvertures de restaurants et au fond celles qui marchent, l'ouverture d'un entrepreneur qui après ira chercher un cuisinier, des serveurs, ou est-ce que c'est plutôt celui qui est derrière les fourneaux, qui achète aussi l'établissement dont il rêvait? Est-ce que ça sait se mesurer ou pas? Et surtout, qui tient le coup des deux, en fait?
Ce qui est la magie de ce métier, c'est qu'il y a la place pour les deux types d'approches et les deux types de vocations.
Oui, c'est très juste.
Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus de profils managériaux. Parce que quand vous prenez le métier de restaurateur d'aujourd'hui, il faut savoir cuisiner et proposer l'assiette. On sait le mesurer, c'est dans une étude qu'on a faite sur les indépendants, c'est 31% des clés du succès vient de l'offre chez les indépendants. Et ensuite, le deuxième critère qui joue, chez ceux qui réussissent le mieux, c'est le soin qu'ils mettent au management et au RH, donc ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Là, je parle bien de la restauration à table. Alors qu'en restauration rapide, c'est beaucoup plus la gestion qui est plus importante. Vous voyez, on voit bien les différences entre les secteurs. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, un restaurateur en 5 ans, il a dû intégrer « j'apprends à faire de la livraison, j'apprends à faire de la réservation en ligne, j'apprends à utiliser des logiciels de gestion de déchets, j'apprends à des nouvelles normes, je mesure une inflation plus importante et je continue, je gère maintenant mes staffings de manière informatique, mes staffings, mes charges de personnel, mes équipes. » Et donc on voit bien que c'est un métier qui est extrêmement complet. C'est ce qui en fait sa passion aussi. Et c'est un métier qui est très complet, mais qui se joue dans un univers particulier, qui est celui de l'hospitalité, comme le disaient les anglo-saxons. La table, l'accueil, et toute la place qu'elle a, finalement, au-delà des chiffres et des modèles, c'est le sens qu'on donne à ce métier.
Et adhérer à l'univers, Thierry Marx, juste très rapidement, cette remarque de Philippe sur WhatsApp, qui a écouté Léa, qui disait « moi j'ai changé parce que j'en pouvais plus », elle dit « mais il nous dit gentiment, par ailleurs, Philippe, Léa, c'est le profil type, en fait, parce qu'on embauche des personnes qui ne sont pas formées pour la restauration, qui arrivent de tous horizons, donc ils partent vers, là encore, d'autres horizons. » Et c'est vrai qu'il n'a pas tort, parce que quand on écoute notre amie Léa tout à l'heure, qui a été serveuse, qui est devenue couturière, et qui finalement va passer le concours pour être professeur des écoles. Au fond, on se dit que il faudrait presque une école des serveurs, évidemment, ça existe, enfin, je veux dire, mais qu'il y ait des gens
et en même temps, de regarder
littéralement fait pour ça, en fait.
Nos sociétés telles qu'elles sont, quand on est sorti du Covid, à l'UMI, on avait fait faire une petite étude, on avait réétudié une étude qui avait été faite, où les gens de ces professions, hôtellerie et restauration, nous disaient, je n'aurais plus un rapport sacrificiel au travail. Mmh. Et finalement, toutes les industries ont vécu ce phénomène. Je pense que des gens rentrent dans la restauration, certains y trouvent un job, un travail, d'autres trouvent une passion et s'épanouissent. Chacun son mode d'épanouissement.
Allez, épanouissez-vous et mangez bien, on n'a qu'à dire ça. Merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreux appels.